brestoise, brestois, il reste donc des journées, 6 journées, et c'est l'heure d'accueillir notre voisin et ennemi, peut-être meilleur ennemi lensois, pour ce 65e épisode, hein, déjà. Par contre, j'ai le plaisir de retrouver ici, non pas le meilleur ennemi, mais l'un des meilleurs tout court. On est aujourd'hui avec Fanche. Fanche, comment ça va?
Salut Yann, salut à tous, ça va très bien.
On a digéré le match nul de ce dimanche.
Oui, j'avoue, j'ai digéré. Le petit live d'après-match a permis un petit peu d'évacuer la déception et de se tourner directement maintenant vers le match de dimanche qui s'annonce lui aussi plutôt crucial.
Bah ça tombe bien puisque c'est ce qu'on va faire dans ce podcast. On chamboule un peu les habitudes, on va pas revenir sur le match de Nîmes parce que, comme vient de le dire Franche, on a déjà traité le sujet en live dimanche dernier. Le live est disponible sur Twitch en rediffusion et normalement, à l'heure où vous écoutez, il sera aussi disponible sur YouTube, donc n'hésitez pas à aller le voir. Il a été notamment question d'Olivier Dalloglio, hein, pas que du match, vu que ça a été l'actualité. Mais sur ce match, sur cet épisode là-bas, on va quand même faire un schéma classique, c'est-à-dire on va donner quelques news quand même et se pencher sur la réception de Lens avec un supporter lensois. Alors c'est Jean-Christophe sur Twitter, je ne me souviens plus de son pseudo.
Le roi du coron.
Le roi du coron, qui a la particularité d'être supporter lensois, mais d'être expatrié à Brest depuis 3-4 ans. Donc voilà, on le retrouvera tout à l'heure, mais on va démarrer sur une classique tout simplement, c'est-à-dire des news.
Ah, les supporters là, c'est quoi les news ce soir?
Alors peut-être pour changer et pour faire un peu égocentrique, en termes de news, bah, on va commencer par donner des news du podcast de nous-mêmes. Alors, vous avez dû le remarquer depuis il y a quelques semaines où des podcasts ne sortent pas, etc. C'est absolument pas un manque de motivation, en tout cas pas de mon côté.
Non plus, non, non. Pas du tout, au contraire, je dirais.
Au contraire, exactement, c'est parce qu'on est en train de préparer énormément de choses pour la saison prochaine. Certaines verront le jour, certaines ne la verront pas, on verra, mais on travaille beaucoup dessus. Et il faut se rendre compte qu'un podcast, c'est très sympa à enregistrer, mais c'est aussi pas mal de travail de montage. Donc au niveau du temps, c'est compliqué, surtout qu'on a nos situations professionnelles. Le podcast sera toujours là. Hein. Moi, j'ai absolument pas envie de l'arrêter, ni cette saison, ni la prochaine. Mais il est probable quand même que cette fin de saison, il y en ait toujours, mais surtout de plus en plus de live Twitch, parce que les live Twitch, ça a cet intérêt de ne pas avoir cette question de montage. C'est beaucoup plus simple à mettre en place. Et puis,
plus d'interaction aussi.
Voilà, j'allais te demander ton ressenti. Moi, c'est un format que j'aime bien. On peut discuter avec vous.
Ouais, bah, je suis d'accord avec ce que tu dis, Yann. Effectivement, on a tous les trois nos responsabilités, que ce soit personnelles ou professionnelles, surtout en ce moment où c'est un petit peu chargé. C'est avec la fin de l'année scolaire, en l'occurrence, pour moi, ce sera un peu plus light. Donc, j'aurai plus de temps accordé au podcast. Et ce qui est bien aussi avec la plateforme Twitch, c'est qu'on peut effectivement passer outre une période de montage qui nous prend du temps, parce que mine de rien, entre les différents enregistrements, les différentes parties, les invités à voir, c'est quand même assez chronophage. Mais le fait de pas avoir de montage sur Twitch et aussi d'interagir avec les gens, parce que bon, c'est toi Yann qui a quand même pas mal développé la chaîne Twitch avec les sondages, avec le chat. Bon, on était monté à 80 ou 78 personnes dimanche après le match, et c'est en tout 170 personnes qui sont passées sur le live juste après le match, hein, donc c'était un dimanche après-midi, c'était plutôt cool. Ça se développe bien, donc si vous ne connaissez pas Twitch, n'ayez pas peur, c'est vraiment pas compliqué. Il suffit juste de cliquer sur un lien et nous écouter, et puis vous pouvez même intervenir. D'ailleurs, on a fait intervenir pas mal de personnes ces derniers temps, notamment Paul Boeck du Telegram, qu'on remercie. Et je pense qu'on va continuer ça, Yann, je sais pas ce que t'en penses, mais de faire intervenir, si et là, des personnes qui suivent le Stade Brestois.
Oui, très clairement. Et puis, nouveauté, bon, c'est un petit spoil, mais on n'en dit pas plus, il n'y aura pas que des avant et après match. On a déjà quelques petites idées pour ponctuer un peu la semaine. Hein. Donc, voilà. On n'en dit pas plus, ça viendra. Le podcast est toujours là, il va juste peut-être se diversifier, en fait, c'est tout simplement ça.
Oui, c'est ça, parce que le podcast en lui-même va rester peut-être pas tous les jeudis, on verra comment on s'en sort, mais le podcast continue d'exister, bien sûr.
Tout à fait. Bon, voilà, on finit cette crise d'égocentrisme, hein, on va passer aux vraies news. Je sais pas par quoi tu veux commencer, Franche, puisqu'on en a quand même pas mal, t'en as pas mal.
Moi, j'aurais bien commencé par un petit message de soutien à Quentin Bernard. Qu'est-ce que tu en penses?
Ah oui, ça peut être très intéressant, oui. Quentin Bernard, c'était sur Beansport qu'il s'est exprimé, je crois.
Ouais, c'est ça. Il s'est d'abord exprimé sur les réseaux sociaux, justement pour dire qu'il quittait les réseaux sociaux, parce que d'après ce que j'ai compris, après le match, donc d'après la victoire face à Niort, d'ailleurs, a signalé que sur le match aller-retour, Auxerre gagne 10-0 contre Niort. C'est quand même pas commun. Après le match contre Niort, Quentin Bernard a été visiblement victime, et surtout sa famille, d'insultes. Je crois que c'est des insultes de père, enfin, niveau familial, etc. Et donc, bah, ça ne doit pas être la première fois pour qu'il en arrive là. Il a décidé de quitter les réseaux sociaux. C'est un peu dommage parce que c'était un bon communicant sur les réseaux. Nous, on l'avait eu en plus grâce aux réseaux sociaux pour un podcast de légende, hein, on ne va pas se mentir. Donc voilà, juste un petit mot pour lui apporter tout notre soutien et que des meilleures choses à lui, sa famille et son entourage parce qu'il le mérite. Il ne mérite absolument pas de subir, comme aucun joueur d'ailleurs, de subir ce genre de choses. Nous, on est là dans la critique aussi, dans le podcast, mais dans la critique sportive. Et en aucun cas sur les attaques personnelles envers un joueur. On condamne évidemment ça, c'est à ne surtout pas reproduire. Donc force à toi, Quentin.
Oui, et à ne surtout pas reproduire, même quand les choses ne vont pas bien sportivement. Hein. Moi, je resterai, mais si le Stade Brest-Auvergne venait à descendre, on sait qu'il y aurait des personnes qui seraient tentées d'avoir ce comportement. On espère avoir un audimat assez responsable et assez adulte pour ne pas le faire, tout simplement. Donc,
D'ailleurs, Ligue 1 ou Ligue 2, podcast continuera d'exister. On est
évidemment.
supporter du Stade Brestois, pas supporter du Stade Brestois en Ligue 1. Si jamais on devait descendre, on aurait des propos certainement assez durs sur la descente sportive, parce que je pense que si descente il y a, ce sera un échec étant donné notre première partie de saison, et je pense qu'on pourrait trouver des responsables, des raisons, etc. Mais en aucun cas s'attaquer évidemment aux personnes, c'est pas dans l'esprit du podcast.
Oui, mais de toute façon, il n'y aura pas de descente. Il n'y aura pas de descente, en tout cas, pas pour, enfin, selon moi, pas pour l'équipe première. Par contre, et là, c'est une petite transition, il y a une autre équipe qui est potentiellement en danger, c'est l'équipe féminine du Stade Brest-Auvergne. Alors, elles évoluent en D2F. Pour l'instant, le championnat est suspendu, mais le site assez bien renseigné, hein, c'est-à-dire un temps foot amateur, fait état d'une possible reprise du championnat le 8 mai, avec comme principe juste de finir la phase aller et de se baser sur la phase aller pour le classement. Le souci, c'est que le Stade Brestois est actuellement antépénultième de sa poule, ex aequo avec l'avant-dernier qui est Nancy, et bah, ce sont les deux derniers de chaque poule qui descendent. Bon, déjà la situation n'est pas très glorieuse, mais surtout c'est sur les cinq derniers matchs qui restent, bah il y a un Brest-Nancy. Donc on ne sait pas si ça reprendra effectivement, si les Brestoises seront prêtes, en tout cas on le verra. On suivra, mais ça peut être un match intéressant au moins à suivre, un support à apporter, puisque, pour rappel, enfin, je viens de le dire, on est supporter du Stade Brestois dans son ensemble.
D'ailleurs, pour l'équipe féminine, il me semble que quand on avait commencé l'année, Quentin semblait dire que le recrutement était intéressant.
Oui.
Peut-être une grosse déception finalement cette saison chez les filles.
Bah, c'est ça, il y avait eu pas mal d'investissements de fait. Bon, il y a pas mal de mouvements des deux féminines en général, mais on avait sorti des.
Visiblement, l'équipe féminine de handball de Brest se débrouille mieux.
Oui, mais nous ne parlons pas de handball ici.
Nous sommes un podcast sérieux quand même.
Tout à fait. Tout à fait. Autre news sur le club, elle est un peu passée inaperçue, mais c'est une news qui risque d'avoir un certain impact, c'est au niveau de la N3.
Oui, au niveau de la N3, tout à fait, une grosse surprise même, je dirais, hein, on ne s'y attendait pas. C'est le télégramme qui l'annonce, Laurent David ne sera pas conservé à l'issue de la saison. Lui qui est au club depuis, ancien joueur évidemment, hein, et coach depuis longtemps, c'est un petit peu Quentin, le spécialiste d'ailleurs de la N3, nous en a parlé souvent en propos élogieux. Il ne sera pas gardé, pas conservé par le Stade Brestois, c'est surprenant, mais voilà. Quand on aura plus d'informations, on en parlera certainement dans le bilan global de la saison du club. Mais voilà, plus de Laurent David la saison prochaine. Yann, tu avais des noms peut-être pour le remplacer?
Moi non, c'était les noms du Telegram, je crois qu'il parlait notamment de potentiellement Johan Ramaré ou Nicolas Marié. Bon, on verra. Personnellement, je trouve ça quand même surprenant de ne pas le conserver à l'issue de 1 an et demi où la N3 n'a simplement pas joué. Je pense, bien sûr, ça doit être pensé en interne, hein, bien sûr, mais je vois pas sur quels critères on décide ou non de ne pas le conserver. Bon, c'est dommage, hein, ça reste un enfant du club, je pense qu'il restera dans la région brestoise, il n'y a pas assez peu de doutes là-dessus.
Oui, bah il y a des choix à faire. Après, on n'est pas dans les secrets des dieux non plus, donc
Voilà.
c'est un fait.
Tout à fait. Bon, on a rapidement fait tour des féminines, de la N3. Pour les jeunes, il n'y a malheureusement pas de nouveau, hein, en dehors de Josué Escartin et Simon Lebras qui continuent leur sélection internationale en jeunes. Mais du coup, maintenant, on va passer à ce qui intéresse la majorité de notre audimat quand même, c'est le groupe professionnel. Avec, alors je peux me tromper, mais seulement deux news. Hein. La première, vous la savez malheureusement, c'est la blessure de Paul Lann. Grosse blessure, je ne me souviens plus exactement ce que c'est.
Blessure au genou. Parce que je vois qu'il ne faut pas trahir les secrets de présentation dans le petit sommaire que tu nous as préparé. Tu as marqué blessure de Paul Lann, aïe aïe aïe, donc c'est une blessure qui doit faire très mal visiblement. Mais oui, je crois que c'est une blessure au genou, donc des ligaments qui visiblement sont touchés. À son âge, c'est potentiellement encore plus problématique, parce que je ne veux pas dire que Paul Lann est un vieux de la vieille, mais quand même, pour revenir au top niveau, c'est vraiment hyper dommage, parce qu'il... Il était, à mon sens, en tout cas, je trouve qu'il était important dans le système du Stade Brestois et d'Olivier Dalloglio, un peu une plaque tournante au milieu de terrain, même si évidemment il y a des qualités, des défauts, on peut en débattre. Mais voilà, c'est fin de saison et ça remet certainement en cause aussi la saison prochaine.
Oui, c'est ça, le point très négatif pour lui, c'est qu'il est en fin de contrat. Donc on verra ce que le Stade Brestois fera, est-ce que le Stade Brestois sera entre guillemets grand prince ou non. Les deux positions se tiennent, hein, malheureusement. Donc on verra ça encore une fois, on n'est pas dans le secret des lieux. Et par contre, qu'est-ce qu'on a d'autre comme news sur le groupe pro ? Ah, bah on a malheureusement, pour le match face à Saint-Etienne, donc dans deux semaines, la suspension de Steve Mounier, qui a pris trois cartons jaunes en 10 matchs, c'était donc contre Marseille, Lorient et Nîmes. Faudra s'adapter, faudra faire sans.
Je pensais à ça ce matin, justement, quand je t'ai dit que c'était contre Saint-Etienne qui serait suspendu. C'est effectivement un coup dur. Mais Mounier, en ce moment, il est peut-être un peu moins bien. Peut-être que avant de recevoir Nantes, si je dis, on va à Nice peut-être d'abord d'affilée, je ne sais plus bien. En tout cas, il y a Nantes qui arrive. Peut-être que donner un petit peu de repos à Steve Mounier, ce sera pas plus mal. On sait qu'il a été en Afrique, notamment avec le gros problème qui a eu lieu avec les écureuils du Bénin. C'était au
Sierra Leone, c'est ça. Magnifique pays.
Peut-être que ça lui fera pas de mal de souffler un petit peu. Et puis, il y a des alternatives devant. C'est pas devant qu'on est le plus démuni. Donc, je dis pas que c'est pas grave, mais il vaut mieux pas perdre, malheureusement, Jean-Lucas, même si, ou Gomagnetti en ce moment. Quoi.
Oui, parce que par contre, et on va y venir tout de suite après, Aris Belkebla, il lui reste quand même un match de suspension à purger. C'est face à Lens ce week-end. Et bah justement, en parlant de Lens, on va peut-être enchaîner directement sur Lens. Et pour commencer, vieille habitude, on va aller discuter avec un supporter du RC Lens, Jean-Christophe, donc le roi des corons, tu me disais. On prévient peut-être un peu en intro, le son est un peu caverneux, c'est ça que tu disais, Franck ?
Oui, un petit peu.
Mais ça reste largement audible et il n'y a pas de si, c'est juste on a eu un peu de difficulté à régler les réglages, tout simplement. Donc on l'écoute et on se retrouve tout de suite après pour parler assez rapidement de Lens.
Au nord, c'était les corons. La terre, c'était le charbon.
Alors Jean-Christophe, déjà, bah, merci de venir passer une petite tête dans notre podcast aujourd'hui. Première question d'emblée, elle est très simple. Aujourd'hui, le RC Lens est 5e. Tu crois en la Coupe d'Europe pour le RC Lens l'an prochain ?
Oui, je te réponds directement, oui. Tu m'aurais dit ça en début d'année, au début au mois d'août, je t'aurais rigolé au nez. Maintenant, quand je vois la forme de l'équipe, le jeu qui est produit, les résultats qu'on fait, aussi bien contre les équipes que contre les grosses, je me dis que rien n'est impossible. Après, le gros problème, je pense que ça va être le calendrier qu'on a, et notamment à la fin de saison, on va jouer Paris, Monaco et Lille. Donc on n'a pas forcément un calendrier très favorable, contrairement par exemple à Marseille ou à Rennes. Mais je me dis qu'avec avec l'équipe qu'on a, avec tout ce qu'ils ont montré depuis un an, rien n'est impossible.
Justement, hein, Lens 5e, également la meilleure équipe sur les 5 dernières rencontres, 3 victoires à 2 nuls, pas de défaite sur les 11 derniers matchs, mais un Lens qui a quand même un souci ces derniers temps, c'est le Covid. Là, on enregistre du coup ce mardi, il y a actuellement 6 cas de Covid à Lens. Alors c'est Gradit, Badé, Fofana, Ganogo, Mauricio, Medina, auquel il faudra rajouter Sotoka, qui sera blessé pour le match face à Brest ce dimanche. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui peut renverser la tendance lensoise où le banc est assez fourni, l'effectif est assez fourni pour pouvoir outrepasser ces maladies, malheureusement?
Je vais prendre l'exemple du dernier match contre Lorient, où on avait déjà tous les absents que tu as cités et ça a été gradit. J'avais quelques doutes parce que on est amputé de plusieurs de nos titulaires habituels, notamment en défense, Medina et Ballet, qui ont fait une saison énorme tous les deux pour leur arrivée. Malgré ça, on a vu que face à Lorient, qui était pourtant sur une assez bonne dynamique, qui avait battu le PSG, qui était en train un peu de remonter la pente, on a réussi à leur prendre 4 buts, même si on a été en difficulté, que les remplaçants habituels, notamment les jeunes, ont assuré derrière. Donc je me dis que effectivement, ça va nous handicaper, puisque comme je t'ai dit, on va jouer notamment les Paris-Monaco-Lille, où ça risque d'être compliqué. Mais que malgré ses absences, je pense que l'équipe en fait joue hyper libérée. C'est ce qu'ils disent, ils ont aucune pression. Ils commencent à penser à l'Europe, mais ils jouent extrêmement libérés. Donc, j'ai envie de te dire que tout est possible encore à l'heure actuelle, même avec tous ces absents et tous ces Covid.
Pour rappel, Lens a gagné 4-1 face à Lorient le week-end dernier, une victoire aisée sans trop de soucis. Une victoire où, si je ne m'abuse, Gaël Kakuta a inscrit un but et a laissé le second penalty à son coéquipier, il me semble.
Ouais, c'est bien ça.
Globalement, le nom de Gaël Kakuta, c'est évidemment celui qui ressort sur cette saison du RC Lens, mais il y a d'autres leaders, d'autres joueurs vraiment à surveiller côté lensois en ce moment?
Ouais, c'est l'un des principaux étrangers, Gaël Kakuta, mais on voit notamment, même s'il est absent pour cause Covid, c'est Kofofana, qui est en train de faire une saison remarquable, lui aussi. C'est un joueur qu'on a été gratté à l'Udinese, en Italie, qui avait des opportunités de signer en Italie, dans des gros clubs italiens, et qui a préféré le challenge lensois. Et franchement, c'est un régal d'avoir un joueur comme ça. Après, outre Fofana, le danger devant, on est un peu moins fourni, notamment depuis que Ganago a subi sa grave blessure, où on est un peu plus limité en attaque. Le gros danger en attaque également, ça va être Florian Sotoka, Arnaud Kalimuendo également, qui nous a été prêté par le Paris Saint-Germain, et qui fait une saison vraiment top pour ses débuts en Ligue 1. Donc je pense que effectivement Kakuta est un voire le principal danger, mais que même sans lui, le danger peut venir de partout. J'ai pas cité également Jonathan Kloss qu'on a été chercher en Allemagne, qui est pareil, c'est un gars qui a 3 poumons, qui se dépense sans compter et qui est en train de faire une saison lui aussi dantesque.
Alors je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais au match aller, Lens avait aligné une composition, je crois que c'est en 3-4-3, modulable en 3-5-2. C'est toujours le schéma qui est appliqué à Lens depuis, ou c'était juste ça a changé tout simplement?
Non, Francaise a adopté ce schéma qui permet d'avoir une animation offensive très très intéressante, et il a maintenu ce schéma, même contre Lorient par exemple, où on a les deux défenseurs habituels qui sont Medina et Ballet. Il était absent, il est resté dans ce schéma. Il se tient à son schéma de jeu en fait. Il va vraiment pas s'adapter à l'adversaire, mais c'est plutôt l'adversaire qui va devoir adapter sa tactique à Lens. Et ça, je pense que c'est le gros leitmotiv de cette saison, c'est le jeu. C'est continuer à jouer vers l'avant notamment, essayer de marquer, essayer de pousser continuellement, même si l'adversaire est supérieur, même si on est dans le dur, il y a cette volonté franchement de produire du jeu, d'aller constamment vers l'avant, et je pense que c'est ce qui fait aussi la réussite de Lens actuellement.
Et justement, pour les équipes adverses, à ton avis, c'est quoi les points sur lesquels il faut appuyer pour pouvoir espérer battre Lens? Il y a des points faibles qui se dégagent quand même?
Oui, il y a quand même des points faibles, je pense. Si je devais en citer quelques-uns, c'est parfois une frivolité qui peut arriver subitement si tu prends mal le match, où on n'est pas forcément dedans. En défense, parfois, il y a des petites choses encore, des erreurs de jeunesse, je pense. Il faut rappeler aussi que Badé, Medina, Grady, c'est hyper jeune derrière. Donc, ils découvrent le haut niveau pour la plupart. Et ils sont pas à la rue de faire quelques petites erreurs de concentration qui nous ont parfois coûté des points bêtes durant la saison.
Ok. Un match où visiblement ça n'aura pas coûté de points, justement, c'était le match aller entre Lens et Brest. Une victoire, je crois que c'est 2-1 de Lens, de Gaëtan Charbonnier à la 90e minute. C'était un match globalement maîtrisé par Lens. Côté Brest, on peut même considérer que c'est un peu la bascule vers la méforme. T'avais pensé quoi de ce match, toi, si tu t'en souviens?
Alors ça, je m'en souviens difficilement. C'est un match que j'avais suivi de très loin, celui-là. On restait sur ce qu'on savait faire. Je nous ai pas senti sans manquer de respect à Brest, en grand danger durant cette rencontre. Par le passé, notamment quand on a eu des confrontations en Ligue 2 avec le club brestois, j'étais souvent inquiet, notamment les déplacements à Francis Leblay qui ne réussissent pas souvent. Autant là, j'avais pas vraiment d'inquiétude. Je te dis, il y a une telle force qui se dégageait de l'équipe et qui se dégage encore, une sérénité que voilà, je me suis dit, une fois qu'on a commencé à mener, je pense pas qu'on puisse être battu sur ce match, que les Brestois puissent revenir.
Est-ce que on peut dire que le Stade Brestois actuellement est un des chats noirs du RC Lens sur ces dernières saisons?
Je pense, ouais. Pour moi, ouais, c'est un chat noir. Si on parle des confrontations qu'il y a eu en Ligue 2, j'ai très mauvais souvenirs des matchs contre Brest. Je me souviens notamment d'un match à Bollard où on doit gagner contre Brest pour monter en Ligue 1 et où on perd, je crois qu'on perd 1-0 contre vous. Quand vous êtes monté également avec Jean-Marc Furlan, ou dans les derniers matchs de la saison, c'est pareil, on se déplace à Francis Leblay où vous nous battez encore. Voilà, ça, c'est souvent des matchs difficiles. Une équipe qu'on a souvent eu du mal à jouer. Et je suis toujours un peu inquiet, et plus encore à l'heure actuelle avec tous les Covidés qu'on a, et par rapport au classement justement de Brest. Qui va devoir, je pense, arracher le plus de points pour acquérir le maintien le plus rapidement possible.
Alors justement, ça c'est un peu une illusion que j'avais aussi, j'étais très surpris en regardant l'historique. Sur les 5 derniers matchs à Francis Leblay, il y a quand même 2 victoires lensoises contre 2 victoires brestoises, mais c'était sur des matchs effectivement peut-être moins importants, pas des matchs de montée, etc. Est-ce que tu penses que sur un match là, qui pour Brest va être déterminant pour le maintien, mais qui pour Lens va être aussi déterminant pour l'Europe, on va quand même avoir du jeu, ou ça va être quelque chose de très crispé, encore une fois, parce que à Brest, c'est malheureusement le cas depuis plusieurs semaines?
Non, je pense qu'on aura du jeu. Enfin, cette année, j'ai pas souvenir d'avoir vu des matchs de Lens où le jeu était fermé, quelle que soit l'équipe qui était en face. Donc là, Lens aura envie, bien besoin de gagner pour consolider encore cette 5e place. Brest, comme je l'ai dit, a besoin d'aller chercher des points pour acquérir rapidement son maintien. Ils seront à domicile. À domicile, c'est un peu plus compliqué à aller chercher l'équipe brestoise, il me semble. Je sais qu'à Francis Leblay, c'est toujours un peu compliqué. Autant à l'extérieur, Brest est plus facilement prenable, autant à domicile, ça reste souvent des matchs difficiles. Donc, je pense qu'on aura un match ouvert, j'espère, et que même avec les nombreux absents côté en soi, ils feront tout pour aller chercher la victoire.
Et il y a peut-être un joueur qui t'inquiète du côté de Brest?
S'il y a un joueur qui m'inquiète, ben, pour l'avoir vu jouer, et maintenant ça fait quelques temps, c'est Gaëtan Charbonnier. J'ai souvenir d'un très bon joueur, d'un attaquant dangereux. Un des premiers matchs que j'ai vu quand je suis arrivé à Brest, c'était un derby Brest-Lorient où Charbonnier fait un match exceptionnel où Brest gagne 4-3, il me semble. Voilà, c'est un joueur qui m'avait beaucoup marqué. personnellement, et je pense que c'est le principal danger côté Brestois.
Est-ce que tu vois le Stade Brestois se maintenir cette saison quand même, ou tu penses que ça peut ne pas passer?
Si, honnêtement, je les vois maintenus. Derrière, il y a des équipes qui ont plus de difficultés. Brest traverse une mauvaise passe depuis quelques matchs, mais ils ont un jeu qui est intéressant. Pour être honnête, j'étais même un peu surpris de les voir aussi loin en début d'année. Les quelques matchs que j'avais vus, j'ai souvenir d'un jeu intéressant, d'une certaine patte Olivier Dalloglio. Et j'aurais pas cru qu'il y aurait eu entre guillemets cette dégringolade au classement. Après, il y a des équipes derrière qui sont plus en difficulté. J'ai beaucoup plus d'inquiétude pour une équipe comme Bordeaux, par exemple, qui propose pas grand-chose, qui va commencer à se mettre dans le rouge, comme Strasbourg éventuellement. Et après, bien entendu, Nantes et Lorient. Je pense que ça va jouer entre Nantes et Lorient, mais je te dis, je pense que Strasbourg et Bordeaux ont aussi des inquiétudes à avoir. Logiquement, je vois pas Brest descendre ni même être barragé cette année.
Très bien, donc logiquement on se dit à l'année prochaine tout simplement, avec peut-être un lance européen, en tout cas on vous le souhaite. On te remercie de ta participation, d'être venu me donner un peu de ton temps, c'était très bien, et puis on te souhaite quand même un bon match. Un pronostic peut-être pour finir?
On va dire 2-1 pour Lens, match difficile, mais une victoire sur confiance en nos jeunes.
Donc on se retrouve, merci à Jean-Christophe pour son témoignage de, mine de rien, de supporters qui croient en l'Europe. Putain, ça, si on me l'avait dit en début d'année, je serais sur le cul.
Ouais, moi aussi, parce que quand j'ai vu le recrutement lensois, j'étais un peu dubitatif. Hein, et il faut reconnaître qu'ils font une saison qui est admirable. Je veux dire, bon, il n'y a absolument rien à dire. On aimerait évidemment tous être à leur place, bien qu'on n'aimerait pas être lensois quand même. Hein. Mais effectivement, ils font une saison sportive qui est vraiment remarquable, encore plus avec le Covid, pas de supporters, qu'on sait à quel point c'est important, important dans le Nord. Donc vraiment top, bravo à eux. Après, s'ils peuvent venir s'incliner à Le Blé dimanche, moi ça me dérange pas trop.
Ça sera un bel exploit, puisque Lens reste sur 11 matchs sans défaite, c'est la meilleure équipe sur les 5 derniers matchs. Bon, après, c'est une sorte de scénario qu'on a déjà vu. Hein. On pense à la fameuse année, le déplacement à Bollaert, où Lens doit gagner pour monter, et un Stade Brestois plus ou moins dans le ventre mou vient les pourrir. On s'en souvient, c'était magnifique ça.
C'est vrai, je me souviens de ce match. Je l'avais regardé d'un œil, parce que nous, on n'avait plus rien à jouer. Et on avait réussi à faire un petit coup là-bas. De toute façon, à chaque fois qu'on va à Lens, il se passe quelque chose, hein, généralement. C'est jamais un long fleuve tranquille. Après, il faut quand même le signaler, hein, et on revient là-dessus, c'est que ce sera un Lens logiquement plutôt amoindri qui va se présenter à Le Blé, puisque fortement touché par le Covid.
Oui, alors on enregistre actuellement le mardi. À Lens, il y a donc 6 cas de Covid actuellement. Alors c'est Gradit qui vient de se rajouter à Ganogo, Fofana, Badé, Medina et Mauricio. Donc non seulement c'est pas mal de joueurs, mais c'est surtout des joueurs très importants. À voir comment ça évolue. Tu me disais, c'est à 10, à partir de 10, un match peut être reporté.
Mmh. Ouais, c'est ça exactement. Donc il faudrait... Si juste pouvait y avoir Klos et Kakuta en plus, et on arrête là.
Oui, bon... alors, ils sont 6, mais par contre, si on en croit la Voix du Nord, potentiellement, Ganogo, Badé et Mauricio pourraient jouer. Parce qu'ils arriveraient à la fin de leur quarantaine juste le samedi. Bon, c'est Ganogo, de toute façon, je pense qu'il jouera pas parce que le mec n'a pas joué depuis janvier après sa très grosse blessure. Par contre, Badé, c'est à mon sens, et je crois que c'était lui que j'avais mis en homme à surveiller du côté de Lensois au match aller. Et pour moi, ça reste aussi la clé centrale de leur défense aujourd'hui. Je sais pas si toi t'as un joueur particulier qui t'impressionne du côté de Lens.
Ouais, Jonathan Klaus, je pense, comme tout le monde à Lens, hein, il est incroyable cette année sur son côté. On peut parler aussi de Gaël Kakuta, pardon, qui est vraiment le dépositaire du jeu, hein, vraiment apporte une bonne touche technique. Arnaud Kalimendo aussi devant. 22 matchs cette année, il découvre la Ligue 1, 7 buts, 4 passes décisives, c'est quand même plutôt en titularisation. C'est un effectif qui est quand même très complet. Ils ont fait un mauvais match, enfin un mauvais match, un match très moyen contre Lorient, ils en ont mis 4 hein, quand même. Mmh. Donc méfiance, ce sera vraiment un match très compliqué pour Brest. C'est une équipe qui met beaucoup d'impact, beaucoup de jus, beaucoup de vivacité, qui joue dans un système particulier, hein. On n'a pas l'habitude d'affronter des équipes qui évoluent dans ce système-là. Ça peut être un match très compliqué pour les Brestois.
On se souvient que Grégory Lorenzi avait essayé de se faire prêter Arnaud Kalimundo. Bon, ça n'a pas marché, mais preuve que au moins l'analyse était bonne, on va dire.
Oui, bah, j'ai envie de dire comme souvent avec Grégory Lorenzi.
Bon, sur les Lensois, malheureusement, il n'y a pas... Enfin, moi, personnellement, c'est une des équipes que je regarde le moins en Ligue 1, alors qu'ils performent bien, donc j'ai pas énormément de choses à dire.
Ils sont très bons à l'extérieur. Ils sont étonnamment... après, peut-être que l'effet stade vide, ça joue aussi, mais meilleurs à l'extérieur qu'à domicile cette année. C'est une équipe qui propose quand même beaucoup, beaucoup de jeux, en fait. Enfin, ils ont beaucoup d'occasions. Comme je disais, ils sont vraiment percutants. Le danger peut venir de partout. Et c'est ce qui peut être dangereux. Après, ils peuvent passer à côté de certains matchs aussi. Hein, ils ne sont pas à l'abri de ça. Et c'est un match que je considère crucial dans la course au maintien parce qu'on n'a pas réussi à prendre les 3 points contre Nîmes. C'était là qu'il fallait les prendre si possible. Si on peut se rattraper, alors un point déjà, ce serait un moindre mal, je pense, parce qu'on grappirait, on approcherait de ces fameux 40 points qui sont, à mon sens, la barre à atteindre. Je pense que 39-40, 40, ça devrait vraiment le faire pour éviter les barrages, je dis. Si on arrive à battre Lens, ça nous permettrait de vivre une fin de saison un petit peu plus relâchée et d'affronter Nantes, d'accueillir Nantes dans quelques semaines en étant un peu plus libéré, parce que si tu perds contre Lens et qu'ensuite à Saint-Étienne qui vient de gagner 4-1 contre Bordeaux, tu perds aussi, ce qui peut être possible, ce serait pas une bonne idée d'affronter le FC Nantes avec plus que 2 ou 3 points d'écart ou même 4 points d'écart avant d'aller à Montpellier et recevoir le PSG.
Match peut-être plus important à mon sens du fait du calendrier des autres équipes, parce que sur cette journée 33, Nantes reçoit Lyon, donc match très compliqué. Bordeaux qui est au fond du trou et qui est pour moi un candidat très très sérieux à la 18e place se déplace à Monaco. Donc là,
Bordeaux c'est vraiment, en plus c'est vraiment la situation du club qui a l'air pourri de partout quoi.
Oui, on a l'impression que ça fait 3 mois que le club coule et que tout le monde s'en fout, joueurs, staff. Pas les supporters, évidemment, mais c'est assez terrible pour eux. Mais...
C'est un peu la même chose à Nantes.
Oui, à Nantes, il y a ce débat, ceux qui veulent voir le FC Nantes descendre, etc. Mais on en parlera lors de la réception de Nantes, justement. Et donc, je termine, il y a Lorient qui va à Marseille. Bon, on ne sait jamais trop à quoi s'attendre avec Marseille, mais surtout, match intéressant pour moi, c'est Nîmes-Strasbourg. Si Strasbourg l'emporte, Nîmes... y a moyen d'enterrer définitivement Nîmes en battant Lens, hein, je pense.
Oui, tout à fait. Vraiment, match crucial. On le répète depuis plusieurs fois, on avait match crucial contre Dijon, on avait réussi à bien le gagner. Le match crucial contre Lorient, par contre, on a fait n'importe quoi. Et là, contre Nîmes, on savait plus trop quoi faire en fin de match, je trouvais, est-ce qu'il fallait continuer à pousser ou pas. Même si on a fait une bonne deuxième mi-temps, le match nul n'est pas forcément immérité. Ça risque d'être chaud contre les Lensois. Et puis après, si on regarde vite fait le calendrier brestois, ça se réduit parce qu'il ne reste plus que 6 matchs, mine de rien.
Oui.
Donc 6 matchs, ça va passer extrêmement vite. Et donc pour les Brestois, c'est la réception donc, de Lens après un déplacement à Saint-Étienne le samedi à 13h et la réception de Nantes le 2 mai à 15h. Donc là, ça va piquer.
Oui.
Et après, c'est Nice à l'extérieur, Montpellier à l'extérieur et le PSG à domicile qui sera, je pensais à ça également aujourd'hui. Quoi qu'il arrive, le PSG aura encore quelque chose à jouer, très certainement.
Oui, c'est très probable. On espère être maintenu après, non ? Mais bon, ça va passer du coup par ce match crucial. T'attends quoi de voir qui, enfin quel joueur et puis quel style de jeu pour ce match-là ?
C'est compliqué comme question parce que est-ce qu'on est à un moment de la saison où on a envie de voir du jeu ou de l'efficacité ? J'ai envie de te dire que c'est presque un petit peu trop tard pour voir une équipe. On sent que l'équipe n'a plus la confiance du début de saison et du mois de, je sais plus quand est-ce qu'on a aligné les belles performances contre Saint-Etienne, contre Lille, même contre Angers, on fait un très bon début de match avant de s'incliner. Là, je pense qu'il faut vraiment aller au plus pragmatique et courir au plus pressé, c'est-à-dire remporter les 3 points, peu importe finalement la manière. Donc c'est mettre beaucoup d'intensité dans les duels et pas tirer 24 fois au but et cadrer que 3 fois, quoi. Ça va vraiment être le gros souci pour les attaquants de régler la mire. Et j'attends aussi beaucoup plus de solidité défensive. Contre Nîmes en première mi-temps, j'avais l'impression qu'on pouvait encaisser à chaque occasion. Je ne sais pas ce que tu en as pensé. Mais Lens, oui, il ne va pas leur falloir 10 occasions pour marquer un but, quoi.
Oui, on s'est fait mettre le cul par terre par Moussa Koné qui est... Enfin, on ne va pas dire que c'est un no-name, hein, mais le... C'est un joueur très moyen de Ligue 1, normalement. Donc,
bon. Ouais, c'est ça, voilà.
Mais bon. Niveau composition, toi, tu touches quoi par rapport au dernier match ?
Moi, alors c'est un petit peu, je t'en parlais, c'est un petit peu peut-être une décision qui serait impopulaire, mais je sors Romain Fèvre de l'équipe, qui a été transparent, à mon sens, une grande partie du match contre Nîmes. Et puisque il va, comment est-ce que j'aurais fait jouer cette équipe, c'est un petit peu compliqué avec le milieu toujours. Du coup, Jean-Lucas, je remets Magnetti qui a gagné sa place, je pense. Hein, je pense que tu es d'accord avec moi contre Nîmes. Et puis après, je vais jouer avec Honora sur un côté, Cardona de l'autre, Charbonnier en 10 et Mounier devant.
Le retour de Cardona sur un côté, enfin. Je crois pas qu'il ait joué une seule fois cette saison à ce poste-là. En tout cas, démarré titulaire.
Bah, je sais pas, mais moi, c'est ce que j'aurais fait pour essayer de... Ou alors peut-être mettre Philippe Otto sur un côté, Philippe Otto, Honora, Mounier, Charbonnier, mais bon, ça fait Charbonnier en 10, mais pas Charbonnier sur un côté, c'est de la confiture au cochon, ça sert à rien, et c'est Quentin qui le disait aussi dans le live d'après-match, il s'énerve, il a pas envie, donc il fait n'importe quoi, donc il perd le ballon, donc il fait des fautes, donc l'équipe déjoue, et c'est vraiment pas un bon plan.
Oui.
Donc ça, ce serait ma compo et derrière je garde les mêmes, même si je mets peut-être j'hésite entre Fossurier et Pierre Gabriel parce que Pierre Gabriel me semble un petit peu emprunté en ce moment.
Même si c'est un peu le flou artistique autour de Christophe Herel, parce que il est blessé depuis plusieurs semaines, mais personne ne sait vraiment ce qu'il a visiblement.
Visiblement, ça sera plus long que prévu, il y a marqué. Donc,
Plus long que prévu, donc Lilian Brassier n'aura pas de concurrence a priori sur ce match derrière.
Je pense que jusqu'à la fin de saison, non, il est tranquille.
Bon, très bien. Oui, bah globalement, moi je te rejoins, juste pour moi, je sais que c'est un peu dur de taper comme ça sur un joueur, mais pour moi, Irvine Cardona a perdu sa place au moins jusqu'à la fin de saison. Peut-être qu'en rentrant, il peut faire du bien, mais le match face à Nîmes, c'était... Je pense que laborieux est un euphémisme.
Le souci de l'extérieur que j'ai, moi, avec Cardona, c'est que d'une part, il est en total manque de confiance, et que du coup, c'est un joueur qui marche à la confiance lorsqu'il marque des buts un peu improbables. C'est vraiment quand il est en pleine confiance. Quand il est à côté de ses pompes, c'est plus compliqué. Et autre chose qui, alors peut-être que je me plante complètement, mais c'est la sensation que j'ai en tout cas en regardant les matchs, de sentir un joueur qui n'est pas forcément 100% concerné par l'effort collectif et peut-être du fait qu'il marque plus, je ne sais pas, mais ouais, je sais pas.
Ah, moi, je vais être un peu en désaccord là-dessus, où je trouve qu'on peut pas lui reprocher de faire des efforts. Mais par contre, les trois quarts du temps, c'est des efforts qui soit ne servent à rien, soit qui mettent un peu son équipe dans la merde. Mais je trouve que son implication en soi, elle est pas mauvaise. Mais voilà, il y a un moment, je ne sais plus qui c'est qui disait ça sur le live, c'était un auditeur, je crois. Jouer avec Cardona aujourd'hui, c'est jouer à 10. Donc, tout simplement, je le sortirai. Avec, comme toi, mais je suis pas neutre, hein, bien sûr, de remettre Charbonnier, enfin, dans l'axe, si possible. Et donc, moi, je resterai avec Romain Fèvre à droite, Honora à gauche et Charbonnier au milieu, parce que, et ça, je sais que Quentin l'aurait dit s'il était là, Romain Fèvre, il attend qu'une chose, c'est de jouer avec Gaëtan Charbonnier. La combinaison, c'est peut-être ça qui peut lui permettre de revenir à un niveau étincelant qu'il a eu en début de saison, parce que là, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui ira te contredire. Depuis un ou deux mois, c'est compliqué pour Romain Fèvre.
Bah, moi, je trouve que c'est compliqué. Je pense qu'il y a plusieurs choses qui l'expliquent. D'une part, son positionnement sur le côté qui, à mon sens, le bride parce que c'est un joueur qui a besoin de se balader. Et on l'a vu contre Bordeaux, il était super bon. Mais quand il est bon contre Bordeaux, notamment sa percée en fin de match, c'est quand il a de l'espace dans l'axe et qu'il peut aller et venir. Deuxième chose, je pense que pour sa première saison en Ligue 1, effectivement, physiquement, même s'il est encore jeune et que c'est une excuse qui peut être peut-être difficilement entendable, à mon sens, peut-être qu'il a un petit peu de manque de jus aussi. Hein. Il a été envoyé également avec l'équipe de France Espoir. Bon, c'est pas forcément de tout repos pour lui, même s'il a page de contre l'Orient. Et troisième chose, il y a quand même beaucoup de bruit autour de Romain Fèvre, de transfert, d'agents. Il était dans l'équipe, des articles, la notoriété. On sait que ça peut monter à la tête d'un jeune joueur, qu'il le veuille ou pas, hein, avec un entourage qui le protège ou pas d'ailleurs. Mais peut-être que le cumul de ces trois arguments-là fait que Romain Fèvre est moins efficace et moins bon qu'en début de saison.
On sait que ça peut monter à la tête d'un entraîneur aussi. Enfin, c'est pas de débat, on l'a déjà fait en live, voilà. Vous pouvez aller le voir. Mais voilà. Je sais pas si t'as quelque chose à rajouter sur ce match de Lens. Comme je l'ai dit, moi je regarde très peu Lens, donc sur le coup j'ai assez peu d'éléments.
Non, bah sur le match, non, on va pas ergoter davantage. À mon avis, on a dit le plus important. Maintenant, place au terrain, c'est le terrain qui va parler, place aux joueurs. On va garder confiance en eux. Ils nous ont sorti des beaux matchs cette année. Contre les gros à domicile, contre Lyon, on a perdu, mais c'était pas mal. On a battu Lille. Il y a quand même de quoi espérer. Ils sont pas devenus nuls du jour au lendemain.
Oui, et puis, de toute façon, je pense qu'il vaut mieux perdre contre Lens et battre Nantes que l'inverse. Dans tous les cas, il pourra peut-être paniquer, ouais. Mais ça sera pas, on sera pas encore mort, quoi qu'il arrive.
Ce serait bien d'en gagner au moins 1-2-2, ouais, c'est clair.
Oui. Bon, on espère que ce sera réglé dès dimanche. Du coup, si on n'a pas d'autres éléments à ajouter, si ce n'est, faites vos pronostics sur la rouste. Ça, c'est important.
Oui, c'est très important. Oui, la fin de saison. T'es combien de team, toi? Parce que moi, j'ai
16ème.
16ème. Quoi?
16ème. On joue le top 10. C'est dit.
Ah ouais?
Et oui.
T'es sérieux, toi, en fait?
Eh oui, on joue le top 10.
5300 points. Ah, moi, je suis complètement largué. C'est honteux. Je suis 90 bits.
Ah oui, il faut essayer de faire un.
Juste devant Jean Sim.
Ah, bah, et on le salue et on le félicite aussi, puisque sa bière, la très belle, donc, partenaire de Brestonnerre, a reçu le prix, je crois que c'est de la Brasserie Internationale de Lyon. Ils ont reçu un de ces prix-là. Donc, non seulement Jean Sim et son entreprise sont des fervents supporters brestois, ils sont très bien, mais en plus c'est du bon produit, donc n'hésitez pas, hein. Leur site est dans notre description Twitter, vous pouvez aller voir, etc. Mais voilà, c'est validé, c'est par des experts en tout cas, parce que ni Fanche ni moi-même ne pouvons réellement confirmer ce point-là. Voilà.
Et je crois qu'on ne peut pas compter sur Quentin non plus.
Non, c'est vrai. Bon, par contre, on devrait pouvoir compter sur Quentin prochainement, peut-être pour un prochain live ou pour le prochain podcast en tout cas.
On espère.
On sait que vous avez envie de le revoir, on a envie, donc on le retrouvera prochainement et on se retrouvera la semaine prochaine, tout simplement.
En espérant être un podcast avec 39 points au compteur au classement, ce serait bien.
Ah, ce serait bien. Bon, sur ce, je te remercie d'avoir passé cette bonne demi-heure quand même, hein, avec nous au final, Franche.
Oh oui, bah écoute, c'est passé vite.
On se retrouve dès la semaine prochaine et puis allez Brest.
Et bon match à tous, salut.
Allons sur le quai Guédon, devant le petit pont, chanter la chanson, le bras en bas de la croisière, et dans la planche baleinière, chambouer notre brigadier, son bol est caplé, un peu sur le côté. Me rappelle mon bâtiment, c'était le bon temps, celui de mes 20 ans.